Virage Marseille avec Oco, une filtration fiable pour votre eau.
Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Virage Marseille, votre émission quotidienne consacrée à l'actualité de l'Olympique de Marseille, actualité chargée ce mercredi soir. On va en parler avec nos deux invités de ce soir, Martin, supporter de l'OM, comment ça va ?
Ça va bien et toi ?
Ça va très bien, en face de toi, Mourad Aert, journaliste pour Ici Provence, comment ça va Mourad ?
Salut Julien, très bien, très bien.
Alors messieurs, je disais, actualité chargée, marquée notamment par l'accord verbal, comme nous l'explique Fabrizio Romano, journaliste indépendant, mais aussi RMC Sport, entre le club anglais de Sunderland et Igor Paixão. Il nous explique aussi que l'Olympique de Marseille et le club anglais sont en train de définir les contours de ce transfert et les positions se rapprochent. Messieurs, quelle réaction déjà à chaud à cette information ? Mourad, qu'est-ce que ça t'inspire, ce transfert d'Igor Paixão ?
Beaucoup de déception, un peu de colère envers Franck McCourt aussi, et beaucoup de peur pour la saison à venir, parce que Paixão était un pion très important dans la stratégie sportive de l'OM.
Oui, ça acte finalement la fin des ambitions sportives de l'Olympique de Marseille pour cette saison.
Clairement. Après, le mercato n'est pas fini, donc on va voir ce qui se passe. Mais en tout cas, par rapport à l'équipe déjà en place, ouais, les signaux sont pas super positifs.
On parle d'un transfert aux alentours de 30-35 millions d'euros. On sait qu'il a été acheté l'année dernière, transfert record. Hein, on se rappelle, achat record pour l'Olympique de Marseille dans ces eaux-là. C'est décevant aussi de le vendre et de ne pas faire une plus-value énorme sur ce transfert, Mourad ?
Pas où commencer. Alors déjà, c'est décevant de le vendre le 25 août. On est le 25 ou le 26 ?
26.
En tout cas, dans la dernière semaine du mercato, c'est décevant parce qu'à la limite, tu le vends le 20 juin, le 15 juillet, tu te dis, ok, t'as le temps pour voir arriver, le coach a le temps de travailler autre chose. Là, on a vu que ce que le coach a travaillé, il était ultra important. Là, tu vas devoir le remplacer à l'arrache, hein, il faut le dire. Et en plus de ça, c'est très décevant parce que tu as mandaté une entreprise qui doit te trouver des offres. Et elle te trouve des offres valeur du marché pour Igor Paixão le 25 août. Je veux dire, à un moment, il faut que Franck McCourt il se réveille un petit peu et qu'il se dise, c'est bien beau de dire oui, c'est Jacques-Henri Hérault, oui, c'est Pablo Longoria. Là, c'est Franck McCourt qui a décidé les grandes lignes. On voit que Genesio, Richard subissent. Et ce transfert, il est mené de manière désastreuse. Et cette intersaison, elle est menée de manière désastreuse. Et Paixão, là, c'est la cerise sur le gâteau d'une intersaison complètement ratée. Et il n'y a plus Longoria, il n'y a plus Benassia à blâmer.
Oui, c'est vrai que c'est difficilement remplaçable, un joueur comme ça, en si peu de temps, un joueur qui était censé devenir la pièce maîtresse, hein, après le départ de Mason Greenwood, sur le front de l'attaque.
Oui, c'est d'ailleurs ce qu'il a commencé à très bien faire contre Strasbourg. Lors de la préparation aussi, ça a été un des acteurs principaux. Donc oui, forcément déçu. Le prix, je suis d'accord, c'est un prix au rabais. Peut-être que les clubs aussi et la situation de l'OM, où on sait qu'on a besoin d'argent, forcément, on ne va pas se retrouver à faire des énormes plus-values. Mais sur ce poste-là, qui est quand même un poste qui est quand même bien recherché, même au très haut niveau, avec son âge, avec ce qu'il a comme potentiel, on pouvait largement s'attendre à le vendre plus. Mais ouais, c'est inquiétant. Et ce genre de profil-là, on n'en trouvera pas tous les jours. Je pense que même si on peut avoir confiance en Lorenzi pour faire des petites choses, un profil comme ça, je pense que non.
Surtout au marché anglais, quand on voit les prix exorbitants qu'ils sont prêts à mettre pour des joueurs dans les dernières semaines du mercato, voir que l'OM n'arrive pas à leur vendre un joueur de cette trempe-là, plus de 35 millions d'euros. Je vois passer sur les réseaux sociaux notamment des rumeurs comme quoi Ismaïla Sarr, ancien Olympien, ça serait minimum 50 millions d'euros. Et quand on voit son passage à l'Olympique de Marseille, on se dit... C'est
Jonathan Roy aussi qui devrait partir à l'Atalanta, ou en tout cas il y a des discussions pour aussi 40 millions d'euros. Que l'OM ce soit un club difficile pour valoriser financièrement les joueurs, c'est une chose, mais oui, moi j'en reviens encore, c'est la gestion complète là de l'Olympique de Marseille depuis Depuis 3 ans, c'est désastreux, c'est un désastre total, parce qu'avant il y avait plein de transferts, mais on pouvait se dire ok, on voit à peu près là où ça arrive. Là, il y a eu des transferts qui, au niveau éthique, étaient extrêmement questionnables. Il y a eu des transferts au niveau sportif qui n'avaient aucun sens. Tu restes 6 mois, tu pars 6 mois, rien ne change. Et j'insiste là-dessus, mais tu sais, c'est comme si tu déménageais, tu me mandates pour vendre un peu tes affaires sur le bon coin. Tu penses sans doute que je vais vendre ton vieux vase un peu ébréché ou ta table de chevet. Mais moi, j'arrive à trouver que des offres un peu sous le marché pour ta Porsche et ton écran plat qui a 3 mois. Mais enfin, vraiment, Franck McCourt, là, doit des comptes aussi aux supporters marseillais, parce que je l'ai vu un peu se défausser ces derniers temps sur Pablo Longoria. Et là, je suis un peu embêté par ce qui se passe. Et je veux tout à fait entendre qu'il a mis beaucoup d'argent dans le club. Oui, il l'a fait. Mais il a géré le club n'importe comment. Donc, c'est lui qui paye ça, et c'est les supporters qui payent ça. Donc il a dit, quand il est arrivé, « I will be the steward of the club », bah, pour l'instant, tu es un très mauvais steward, Francky.
Et Franck McCourt qui va devoir repartir d'une feuille blanche, hein, si toutes ces stars, toutes ces joueurs les plus, j'allais dire bankable, mais c'est pas le mot, qui partent. En fait, finalement, on va se retrouver avec un OM feuille blanche version 2026-2027. Il va falloir tout réécrire, et ça va être encore plus compliqué pour Franck McCourt pour rebâtir une équipe compétitive.
Ah, complètement, surtout qu'il nous reste 5 jours. Là, si on perd Pechao, on peut attendre aussi d'autres départs. On parle de Guiri, on parle de Aguerd, on parle de Balerdi, on parle de Heusberg. Si tout le monde s'en va, le travail de Loro Renzi, c'est finalement de devoir trouver des joueurs pour constituer une équipe. C'est même pas trouver des remplaçants ou des gens qui vont pouvoir. Il faut tout de suite avoir des joueurs qui vont jouer. Alors on a les jeunes, mais on sait très bien que des jeunes sur la durée, sur toute une saison, surtout à l'OM, je pense pas que ce soit envisageable. Donc il va falloir recruter. Pour moi, le chantier est immense et le temps est compté. Donc il va falloir surveiller, mais c'est pas de bon augure pour le moment.
Et justement, tu parlais du recrutement. On vous a posé la question, chers téléspectateurs, de savoir quelle était la priorité pour le mercato olympien, pour en tout cas la fin du mercato olympien. L'élément de réponse avec Jimmy Comte.
Et oui, Julien, les supporters de l'OM ont tranché et ils ont donné leur avis à cette question qu'on leur a posée dans la journée. Vous allez la voir apparaître sur l'écran. Quel secteur de jeu a renforcé en priorité du côté de l'Olympique de Marseille? Et voici donc leur réponse. Selon eux, c'est l'attaque qui doit être renforcée en priorité. 55% des followers de BFM Marseille et supporters de l'OM ont voté pour renforcer le secteur offensif. 28% pour la défense, 11% pour le milieu et 6% pour le poste de gardien. Donc vous l'avez vu, l'attaque a renforcé en priorité. On a posé la question avant l'annonce officielle de cet accord entre Igor Peixão et Sunderland. C'est dire que les supporters olympiens veulent absolument voir une recrue offensive dans ce mercato. Et ce qu'on peut souligner, c'est que le poste de gardien, comme je le disais, arrive en dernière position. Ça veut dire forcément donc que les fans olympiens font confiance à Geoffrey Delange. Pour rappel, regardez cette composition de l'Olympique de Marseille contre Strasbourg. Geoffrey Delange était bien entendu titulaire. Et on voit que la composition, notamment la défense, elle était avec Egan Riley et Kondogbia qui étaient positionnés en défense centrale. Ça aussi, ça peut être un secteur à renforcer du côté de l'Olympique de Marseille.
Bon, messieurs, voilà, on voit sur ce sondage que les Marseillais, en tout cas les supporters marseillais, veulent avant tout voir des recrues en attaque. Et Jimmy le disait, c'était avant l'annonce du départ de Peixão. On est inquiet sur le secteur offensif quand même, Mourad, et en plus avec le départ de Peixão.
On est très inquiet parce que le départ de Peixão pourrait aussi signaler un potentiel départ de Guiri. C'est vraiment, tout le monde est en vente et apparemment nos vendeurs ne savent vendre que les choses qui brillent. Et le seul qui brille actuellement en attaque à l'OM, c'est Guiri, c'est le plus bankable. Donc si Guiri part aussi et Peixão, comment tu vas faire pour marquer des buts? Je me demande réellement, et combien ça va te coûter aussi, parce que si tu recrutes 3 joueurs à 100 000 euros pour des mecs qui partent qui avaient 300 000 euros de contrat, je suis pas sûr qu'ils fassent aussi bien. Des fois, vaut mieux un très bon que 3 moyens. C'est très difficile. Après, il y a d'autres choses dans ces départs. C'est aussi les amortissements des transferts, etc. Mais alors attention à ça aussi. Si vous faites venir trois joueurs moyens pour 5, 8 et 10 millions, franchement, je vais mal le vivre.
Et surtout que là, pour le coup, si l'OM ne sait pas bien vendre, on sait que les autres clubs, quand ils discutent, en tout cas pour vendre un joueur à l'Olympique de Marseille, là, tout de suite, les tarifs augmentent. C'est un peu les transferts pour l'Olympique de Marseille, c'est un peu le dindon de la farce à chaque fois. Là aussi, ça va être très, très compliqué. Il reste 5 jours, on le disait, avant la fin du mercato, pour se renforcer et pas de faire comme disait Mourad, acheter des joueurs moyens pour acheter des joueurs moyens. Ouais.
Mais c'est ce que il y a quand même une liste de joueurs, enfin pas une liste, mais on a entendu que Lorenzi avait déjà certains noms avec qui il avait échangé, où il n'attendait plus que le feu vert finalement pour pouvoir les faire. Donc on va lui faire confiance. Il est venu pour ça. Aujourd'hui, il n'a pas eu beaucoup de boulot. Enfin, on n'a pas pu voir vraiment ce qu'il a pu faire. C'est pas vraiment lui, pardon, qui est en charge de dégraisser, comme l'a très bien dit Mourad. C'est Unique Sport qui est chargé de s'occuper de ça, de la vente en tout cas des joueurs. Donc pour le moment, voilà, on va voir un peu ce qu'il peut faire. Il avait fait de bonnes choses à Brest. Pareil, l'OM, c'est pas la même chose, c'est pas le même contexte, c'est pas les mêmes attentes. Donc il va être attendu sur ces 5 jours, mais pour le moment, pourquoi pas lui faire confiance, hein.
Arrive en deuxième position de notre sondage la défense marseillaise. Là, il y a un autre souci, c'est que l'OM n'arrive pas à exfiltrer les joueurs. On pense à Naïef Aguerd, on pense à Leonardo Balerdi en première position, hein, lui qui est annoncé plus que jamais sur le départ, mais qui ne trouve pas chaussure à son pied. Est-ce que là aussi, c'est une priorité quand même, si on n'arrive pas à exfiltrer tous ces joueurs, de recruter en défense centrale ?
C'est difficile de définir une priorité tant que tu n'as pas vu qui il te reste. En fait, une fois que tu as vu qui il te reste, tu peux dire oui, non. Et là, il est clair que si Pechao part, l'attaque est la priorité absolue. Mais là, en l'état, si, comme tu l'as dit, tu n'arrives pas à exfiltrer après le 1er septembre Naïef Aguerd et Leonardo Balerdi, il ne faut surtout pas recruter en défense parce que ça va être embouteillé. Au milieu de terrain, il y a du monde aussi, mais il y a du monde qui pourrait partir. Donc, encore une fois, cette intersaison est très mal gérée. Si tu avais réussi à faire partir tous ces joueurs au 15 août, il te reste 2 semaines de mercato pour rééquilibrer le truc. Là, tu vas faire tout ça en deux jours, trois jours, même au mieux en 5 jours, quoi. Et encore, je dis en 5 jours, mais tu ne vas pas faire partir les départs en défense. Et si le 31 août, il y a quelqu'un qui arrive à 23h20 avec une offre pour Balerdi, il me semble que c'est même le 1er septembre, non ? Enfin, en tout cas, à la dernière minute, si dans les 30 dernières minutes du mercato, quelqu'un arrive avec une offre pour Balerdi, il s'en va. Et toi, tu fais quoi ? Tu dis ah bah. Ok,
bon, bah,
ouais. Voilà, c'est une gestion désastreuse.
Oui, parce que la saison dernière, on se souvient que Naïef Aguerd notamment et d'autres joueurs étaient arrivés à la toute fin du mercato, mais là c'est complètement différent, c'est-à-dire que l'Olympique de Marseille n'a aucune marge de manœuvre financière pour venir faire des coups en fin de mercato.
Et en fait, l'OM n'avait aucune marge de manœuvre financière l'année dernière, mais on y a tous cru, donc on a recruté plein de joueurs et aujourd'hui on est...
C'est ce qui a plombé aussi.
Voilà, mettez le mot que vous voulez.
Mais si on arrive à la fin de cette première partie de Virage Marseille, vous restez bien sûr avec nous pour cette deuxième partie. On parlera bien sûr des gardiens de but. C'est aussi un poste qui est un peu un gros point d'interrogation. Est-ce qu'on garde jouer Geoffrey Delange ou pas ? On en parlera et bien sûr on parlera aussi de Bruno Genesio. C'est peut-être la seule éclaircie dans cet été à Marseille. Vous restez avec nous, on revient dans un instant dans Virage Marseille.
C'était Virage Marseille avec Coco, une filtration fiable pour votre eau.
L'intelligence artificielle vous intrigue ? Avec BFM La Tribune, venez découvrir la 4e édition de l'AIM, le grand rendez-vous de l'intelligence artificielle. Les 24 et 25 septembre, rendez-vous au stade CEPAC Vélodrome à Marseille pour échanger avec les plus grands experts. Inscription gratuite et ouverte à tous sur aim-marseille.com.
Je voudrais vous parler de Noma. Noma, c'est le nom d'un monstre qui dévore les enfants. Il leur saute au visage, puis il les tue. Noma vit et sévit surtout en Afrique. Noma grignote tout. La chair, les os, l'espoir, la dignité. Un simple antibiotique peut l'arrêter. 10 euros suffisent à sauver une vie. Faisons en sorte que Noma ne vole plus le visage des enfants.
Donnez.
Virage Marseille avec Oco, une filtration fiable pour votre eau.
On est de retour sur le plateau de Virage Marseille, toujours avec Morad et Martin. Dans cette deuxième partie, on va s'intéresser au poste de gardien de but. C'est une interrogation de cette intersaison. Jeffrey Delange a commencé la saison en tant que titulaire, faute finalement de gardien de but numéro 1 à l'Olympique de Marseille. Est-ce que Jeffrey Delange, tout simplement, Martin, il a les épaules pour être un gardien de but numéro 1 à l'OM et on doit se concentrer sur les autres postes du côté de l'Olympique de Marseille?
C'est une très bonne question. Pour moi, il mérite d'avoir sa chance pour le moment. Après, en fait, tout dépend de ce qu'il souhaite faire. Forcément, d'avoir un gardien avec peut-être plus d'expérience, ça pourra servir par rapport à l'OM. Mais quel sera l'OM de cette nouvelle saison? Donc, c'est plutôt ça la question à voir. Est-ce que financièrement, c'est pas plus intéressant de se pourvoir à d'autres postes, sachant que pour moi, Delange fait le job. Il a un bon jeu au pied. On sait que Genesio aime bien ça. Il l'a souligné durant la prépa. Voilà, je pense qu'il y aura ce qu'on appelle les enfants de la crise. Il y aura forcément des joueurs qui vont jouer et qui n'auraient peut-être pas pu jouer si le club n'était pas en crise. Pourquoi Jeffrey Delange n'en ferait pas partie? Moi, en tout cas, c'est pas là tout de suite où je mettrai énormément d'argent. Je pense qu'il a les épaules et en tout cas, il propose jusqu'à maintenant des performances qui sont quand même satisfaisantes.
Alors, De Zerbi avait fait plus jouer la saison dernière que lors de sa première saison à l'Olympique de Marseille, notamment dans les retours de trêve internationale. Et contre le Paris Saint-Germain, mais bon, celle-là, on va pas lui mettre sur le dos cette défaite 5-0, on s'en souvient, au Parc des Princes. Jeffrey Delange, comme disait, j'aime bien cette expression, les enfants de la crise, ça peut être un des enfants de la crise. Et est-ce que ça serait catastrophique de finalement garder la saison Jeffrey Delange?
J'aime beaucoup aussi cette expression, les enfants de la crise, pour parler de l'OM. Et moi, il me fait penser à un autre enfant de la crise, d'une crise plus ancienne, mais Johan Pelé avait un peu ce côté gardien remplaçant, on ne savait pas trop ce qu'il valait. Et puis, quand il a fallu repartir, donc c'était 2016-2017, juste avant que Franck Macourt arrive, bon, il était là, il a fait le travail, il est resté une saison d'après, il nous permet d'aller en finale d'Europa League. Donc, il y a un peu ce profil-là avec un meilleur jeu au pied, comme tu l'as très bien dit. Mais pourquoi pas nous faire une Johan Pelé? Et il y a tellement de trous, il y a tellement de risques, de trucs qui ne vont pas être comblés dans cet effectif, qu'à la limite, moi, je repartirai avec Jeffrey Delange. C'est un tout petit risque. Je l'appellerai comme ça, c'est le tout petit risque. Il y a un petit risque, en fait, sur une saison entière, il soit décevant. Mais on a déjà eu un petit échantillon de match, on sait ce qu'il vaut. Donc pourquoi pas partir avec lui et se concentrer sur les autres postes? Parce qu'il y a beaucoup d'autres priorités, j'ai l'impression.
Jeffrey Delange, par contre, il faudra recruter au minimum un gardien, même si c'est un numéro 2. Parce que derrière, c'est Van Neck et Verneau. On n'est pas sûr vraiment qu'ils aient le niveau pour jouer en Ligue 1, voire en Ligue Europa, s'il y a la moindre blessure.
Alors, on n'était pas sûr que Carasso ait le niveau pour jouer en Ligue 1. Bon, il avait fait un prêt à Guingamp avant. Beaucoup, les gardiens sont souvent lancés comme ça, en fait. On ne les connaît pas, donc pourquoi pas partir Pourquoi pas partir comme ça? L'effectif, il est tellement décimé. Moi, je serais d'avis de partir comme ça et d'aller chercher ailleurs sur plein d'autres postes.
Ouais, je partage cet avis. Moi aussi, je pense que ça vaut le coup de garder les quelques finances qui nous restent pour s'occuper du reste.
En tout cas, Bruno Genesio l'a plus ou moins adoubé en conférence de presse, on s'en souvient. Il avait dit que Jeffrey Delange était un joueur complet, qu'il savait jouer au pied, que ça correspondait parfaitement finalement avec le style de jeu que veut mettre en place Bruno Genesio du côté de l'Olympique de Marseille. Ça aussi, c'est un gardien, vous trouvez, qui correspond à ce 4-2-3-1 que veut mettre en place Bruno Genesio?
Oui, c'est un gardien plutôt moderne, il a certaines qualités. Après, le jeu que veut mettre en place Bruno Genesio, et je ne dis pas ça pour déprécier son travail, mais c'est plutôt quelque chose d'assez basique, d'assez simple. Donc il a l'air d'avoir les qualités pour être un gardien professionnel de bon niveau.
Allez messieurs, dernier débat pour terminer cette émission. On va parler justement de Bruno Genesio. C'est la seule éclaircie finalement de cette intersaison à l'Olympique de Marseille. Bruno Genesio qui a réussi plus ou moins sa préparation et qui a surtout réussi son entrée en matière en Ligue 1 avec l'Olympique de Marseille. Vous vous en souvenez, c'était vendredi dernier, 4-0 sur la pelouse du CEPAC Vélodrome face à Strasbourg. Est-ce que finalement Bruno Genesio, c'est pas un petit peu la seule réussite et c'est l'homme, pas de la situation, mais qui va pouvoir tirer le positif, le seul qui peut tirer le positif de cette situation?
Oui, moi j'adore déjà Bruno Genesio. Alors on oublie son passé lyonnais, etc. Mais j'aime beaucoup parce que ça tranche. Je pense que c'est ça aussi qui fait du bien quand on a eu des entraîneurs un peu volcaniques, une direction qui était volcanique. Je trouve qu'il tranche déjà dans le management. On sent qu'il a de l'expérience, on sent qu'il ne se laisse pas faire aussi. Il a eu une petite pique par rapport au Capitana, mais sans en faire non plus trop pour que ça devienne un débat et que ça fasse vraiment une affaire. Donc je trouve que c'est bien en tout cas de nous de l'avoir. Est-ce que lui, il est content d'être là? Ça, je sais pas. Je pense qu'on lui avait sûrement vendu un autre projet, mais en tout cas, il est là.
Tu crois qu'il n'était pas au courant de la situation quand il signe, quand même?
Peut-être, mais de là, s'imaginer que ça allait se passer vraiment comme c'est en train de se passer, peut-être pas. Après, dans tous les cas, il a pas le choix. Mais moi, je suis très content. Il a de l'expérience. Il a toujours bien fait jouer ses équipes. Il prend un football qui est quand même offensif, avec du pressing, avec un jeu. Ce que j'ai senti dans les matchs de préparation et dans le match de vendredi aussi, c'est qu'on sent qu'il offre beaucoup plus de liberté aux joueurs. Il est moins dogmatique que pouvait l'être De Zerbi dans son approche tactique. Et on sent que voilà, il y a des joueurs qui en ont besoin. On pense à Angel Gomez, Guiri, Harit. Où ok, il faut un cadre, il faut respecter la structure avec et sans ballon, mais il y a un moment donné où aussi le potentiel du joueur et le côté instinctif un petit peu créatif, voilà, notamment pour les offensifs, sert beaucoup. Et ce qui transpire dans cette équipe, c'est que on sent qu'ils sont soudés, qu'ils sont contents d'être là, et même on voit des images à l'entraînement, etc. Même si à l'extérieur tout se passe pas très 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 bien, on sent qu'en interne il a vraiment créé quelque chose, et on sent un groupe qui est content d'être là et qui a envie de faire des choses.
Oui, c'est peut-être la plus grande réussite finalement de Genesio, d'arriver à fabriquer une ambiance positive dans ce climat ultra tendu qui est le mercato olympien de cet été.
Oh oui, non, mais c'est clair que de temps en temps, quand on est en conférence de presse, on a l'impression d'un univers parallèle. En fait, il ne dément jamais la situation, il l'assume parfaitement. Mais par contre, en effet, il répète quand même assez souvent, je suis venu pour les supporters, il y a quelque chose à faire, il y a un truc. Même si, comme tu l'as dit, je pense qu'il était au courant de la situation, mais qu'il pensait quand même qu'elle serait mieux gérée que ça, parce qu'il y a peut-être une petite surprise de voir qu'au 25 août, on va encore lui enlever des titulaires et qu'il ne sait toujours pas où il va. Mais oui, c'est la plus grande réussite, parce que ça a été pris en amont, parce qu'il a envie d'être là, parce qu'il a une certaine expérience, et parce que oui, comme tu l'as aussi très bien dit, habituellement, j'aime pas trop ce truc de dire oui, après les entraîneurs volcaniques, tout ça, mais là, c'est plus que juste l'entraîneur, c'était l'entraîneur, la direction, tout le club était toujours surexcité. Donc là, il y a un gars qui est content d'être là, qui dit pas « moi je vais partir, si c'est moi le problème, je pars, si c'est… » Ça fait du bien et on se dit « bon allez, on y va avec lui ». Et puis en plus, il a eu un premier bon résultat, donc… Allez, allez, allez Bruno.
Allez. En tout cas, lui, c'est le seul dont on est sûr qu'il restera à l'Olympique de Marseille, ouais, au moins jusqu'à la fin du mercato. Après, ça peut aller très vite du côté du club olympien, mais on espère qu'il va rester le plus longtemps possible pour instaurer une certaine stabilité du côté du club olympien. On a d'ailleurs posé la question à Joël Cantona, ancien joueur de l'Olympique de Marseille, ce qu'il pensait de Bruno Genesio. Le frère d'Eric Cantona est plutôt emballé par la présence du coach marseillais qui, on le rappelle, est passé par Rennes, Lille ou encore Lyon.
C'est quand même exceptionnel. Moi, je ne savais pas qu'on pouvait battre Strasbourg avec 4-0. Ce que je savais, c'est qu'avec Genesio, on va avoir des surprises. Parce que c'est un très grand entraîneur et qu'il n'a jamais fait, il n'a jamais mis un club, quel qu'il soit, que ce soit Rennes, Lyon, à Lille, en dessous de la cinquième place ou en dessous de la quatrième place. Donc j'ai bon espoir.
Est-ce qu'il peut faire des surprises, comme le dit Joël Cantona? Est-ce que, malgré tout ce qu'on a dit dans cette première partie et dans cette deuxième partie, est-ce que Bruno Genesio est capable de nous emmener dans des résultats auxquels on ne s'attend pas pour l'instant?
Au moment des résultats, sachant qu'il ne connaît pas le matériel dont il dispose, donc l'idée, ça va être d'attendre, de voir ce qu'il a sous la main, le matériel qu'il a, et puis ensuite qu'on arrive à se mettre un objectif. J'ai pas notion, je sais pas si ça a communiqué autour d'un objectif cette année pour l'OM d'un point de vue sportif.
Alors lui-même a communiqué en disant on va être européen. Okay. En disant ça sera de la première à la 7e place.
C'est large.
Ça avait été critiqué d'ailleurs cette communication parce qu'on lui avait reproché un manque d'ambition. Mais c'est peut-être ça finalement le vrai objectif. Hein, et lui il est lucide quand il dit ça.
Pas vendre du rêve, ça change aussi un peu. Et je pense qu'avec avec ce qui se passe actuellement, c'est bien de partir de manière réservée sur l'objectif.
Ouais, je pense qu'on lui demande un petit peu de faire des miracles. Alors moi, jusqu'ici, j'étais plutôt optimiste sur la saison à venir avec l'effectif tel qu'on l'avait là, tel qu'on débute contre Strasbourg. Je me dis, bon, tu fais partir Aguerd, Balerdi, tu arrives à gérer un peu ton effectif, tu dois encore faire des ventes, mais tu te débarrasses par exemple d'un Nil Mopé ou de quelque chose comme ça. Je trouve que Mopé, ce serait un très bon second attaquant remplaçant. Mais si tu le fais partir, ça va. J'étais optimiste. Je voyais vraiment l'OM terminer quatrième. Mais le départ de Pechao me fait très peur, me rend un petit peu pessimiste parce que j'ai peur qu'il annonce... pour moi, il y avait trois joueurs à ne pas faire partir en cette fin de mercato. C'était Pechao, Guiri et Højbjerg parce qu'il t'offrait un socle, un plancher à ton équipe. Il offrait un plancher à ton équipe. Et là, si tu fais partir ces joueurs-là, tu sais pas où va se situer le plancher et il va falloir tout reconstruire et pour Bruno Genesio et c'est pour ça que vraiment aujourd'hui je suis vraiment en colère contre la gestion du mercato de l'OM, vraiment je pensais pas, je sais, j'entends aussi que tout le monde est en vente etc, mais je pensais quand même qu'il allait avoir un minimum de cohérence sportive et qu'on allait rester comme ça. En restant comme ça, il y avait vraiment des espoirs à avoir sur cette saison. Là c'est, on verra comment on se réveille le 2 septembre quoi.
Et pour finir sur une note positive, c'est quand même Kirill Louis-Dreyfus, le fils de l'ancien président et des propriétaires de l'Olympique de Marseille, Robert Louis-Dreyfus, qui va peut-être sauver le club en rachetant Igor Paixão. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous pour cette émission de Virage Marseille. Je rappelle qu'elle est disponible dès maintenant en podcast pour réécouter, bien sûr, les analyses de nos deux invités à la maison, sur votre téléphone, en voiture, peu importe. C'est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Vous restez, bien sûr, avec nous sur BFM Marseille, Provence, BFM Toulon et BFM d'ici. L'information revient dans un instant. Et d'ici là, portez-vous bien.
C'était Virage Marseille avec Coco, une filtration fiable pour votre eau.